France Inter, franceinter.com.
Je suis né inconsolable. Louise de Villemorin. Deux mille ans d'histoire. Louise de Villemorin est morte le 26 décembre 1969, à l'endroit même où elle était née 67 ans plus tôt, dans sa maison de Verrières-le-Buisson, dont cette femme d'esprit avait fait au XXe siècle ce qu'étaient les salons littéraires du siècle des Lumières. Écrivain et poète, sa beauté et son élégance exerçaient sur tous ceux qu'il avait rencontrés un pouvoir de séduction qui avait ensorcelé Saint-Exupéry, André Malraux, ses deux maris, un milliardaire américain et un aristocrate hongrois, mais aussi Roger Nimier, Orson Welles, Léo Ferré et même Jean Cocteau, qui a dit un jour à Louise de Villemorin ce qu'il n'a sans doute jamais dit à une femme: « Vous êtes une sainte, je vous épouse ». Bref, dès sa plus tendre enfance et bien avant ses premiers poèmes et ses premiers romans, Louise de Villemorin était d'abord, comme l'écrit Jean Chalon, une machine à plaire. Elle le reconnaissait elle-même au micro d'André Parineau en 1957.
Qu'est-ce qui vous passionnait à l'époque de vos 10 et 12 ans ?
Alors, la folie des collections. Ça, la folie. Collectionner tout. Et ma poupée. Ma poupée était ma passion, ma véritable passion. Plaire aussi. Faire rire, dire des bêtises. Être tout ce qu'il y a de plus fanfaron en parole et tout ce qu'il y a au monde de plus poltronne dans la réalité. Je suis un peu heureuse. Mais aimant toujours beaucoup faire des conquêtes, séduire, m'imaginant toujours dans des situations on ne peut plus en vue. Moi, je rêvais toujours que j'étais absolument couverte de bijoux et une cantatrice ultra célèbre. J'étais sur la scène, c'est des applaudissements, me lançais des fleurs, des bouquets, je me pâmais. Enfin, c'est toujours être sur une scène et recueillir énormément d'applaudissements. Voilà, ça c'était mon idéal.
Françoise Wagener, bonjour.
Bonjour.
À vous le rappeler dans une excellente biographie de Louise de Villemorin, publiée chez Albin Michel, ce qui l'a motivée dès sa plus tendre enfance et toute sa vie, sa première vocation en quelque sorte, et bien avant la littérature, c'était de plaire. On vient de l'entendre, d'ailleurs, ce que l'on vient d'entendre, ça vous a fait sourire.
Ah oui, parce que c'est tellement elle. Et elle s'en est expliquée très souvent. L'abbé Munier, qui a catéchisé Louise et ses frères. Elle a été élevée par l'abbé de ses frères, l'abbé Tisnes, mais il y avait aussi l'abbé Munier. Leur parlait, dit-elle ailleurs, de la gloire. Et leur disait qu'il fallait aimer la gloire. Alors elle se voyait cantatrice, c'est là qu'elle explique, qu'elle se voyait séduire des foules entières. Et c'est vrai que c'est une de ses vocations, comme sa vocation profonde, le désir de séduire. On nous apprenait, disait-elle, avant tout, à être aimable. Voilà, c'est toute une époque, toute une éducation, de la belle époque précisément, parce qu'elle est née au début du XXe siècle, où il était important d'être de bonne compagnie. La convivialité importait avant tout. C'était un art de vivre et les Villemorin le possèdent au plus haut point. Et Louise, donc, d'emblée, dès l'enfance, était orientée vers ceci. Elle était très douée pour ça, il faut dire.
Née en 1902, vous le rappelez, dans une famille de grands botanistes et de grenetiers, dans une maison où elle est morte, d'ailleurs, elle est née où elle est morte. « Je suis née inconsolable », dit-elle. D'ailleurs, c'est le titre de votre biographie, Louise de Villemorin, Françoise Wagener. Et pourtant, elle est née avec une petite cuillère en argent dans la bouche.
C'est vrai. Et ça n'explique pas tout, ça ne justifie pas tout. « Je suis née inconsolable », ça c'est une phrase qu'elle dit au détour d'une lettre à Jean Cocteau. Dans les années 30, à la fin des années 30, où elle est assez déprimée, et lui dit: car au fond, il faut que tu saches que je suis née inconsolable. Et elle le répétera assez souvent: je suis née inconsolable. C'est peut-être l'une des clés pour la comprendre. Chercher au-delà des masques de l'élégance, de l'esprit, de la séduction, au-delà de cet art de plaire, comme dit très justement Jean Chalon, machine à plaire, ça devient quasiment répétitif. au-delà ou plutôt en deçà de cet art de la séduction, de ce goût de la séduction, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de souffrance. Une souffrance qui vient probablement, pour une part, de ce que sa mère n'était pas très aimante. C'était une femme éminente, une femme du monde qui recevait très brillamment. Qui
Émilie était... de Villemorin.
Mélanie de Villemorin. Seconde femme en France, deuxième femme, pardon, en France, commandeur de la Légion d'honneur après Anna de Noailles en 1932, c'est pas rien. Mais elle n'aimait pas beaucoup ses enfants, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ils en ont tous souffert, et ils se sont tous d'ailleurs, pour ça, regroupés, enfin, aimés les uns les autres, resserrés les uns sur les autres. Bon, sa mère a certainement été un facteur de souffrance dans la vie de Louise.
Il y a aussi une maladie, la tuberculose osseuse, qui va la faire boiter toute sa vie.
Voilà, l'infirmité, quelque chose. Alors là, elle est admirable, jamais elle ne s'en plaint, jamais elle n'en parle. J'ai eu beaucoup de mal même à détecter les opérations que toute sa vie elle a dû souffrir. Elle avait la hanche gauche prise. Et simplement, au détour d'un verre très joli, elle dit « Le bonheur est un invalide qui passe en boitant comme moi ». Voilà.
Mais elle souffrira beaucoup de ça. Qu'elle compense. D'abord, elle est très belle, elle a énormément de charme. Elle séduit Saint-Exupéry, hein, le jeune Saint-Exupéry, dont sa mère ne veut pas entendre parler. Et puis,
nous sommes en 1920, fin 22, 23. Alors, un aviateur en 22, 23, vous imaginez, c'était pas une vocation, c'était pas une situation, c'était une aventure inquiétante pour Mélanie de Villemorin.
Alors, pas de mariage, hein, la mère ne veut pas.
Et elle n'est pas en état d'avoir. Pas en état d'avoir des enfants, c'est ça qu'il y a. Elle a dû se soigner des années, Louise, avant de pouvoir avoir des enfants, il faut le dire.
Et un mariage en 1925, un mariage avec un Américain très fortuné, richissime, qui va l'entraîner avec elle pendant quelques années à Las Vegas.
Le père de Henry Lee Hunt connaissait bien le père de Louise de Villemorin, Philippe de Villemorin, qui était éminent et qui était mort très précocement à la fin de la Première Guerre mondiale. Je suis née inconsolable, j'y reviens parce que il y a aussi cette nature malheureuse dont Louise évoque tout le temps la fatalité, dit-elle, ce malheureux cœur qu'elle tient de son père. Oui, tout un ensemble de choses qui fait qu'au-delà de ses fiançailles rompues avec Saint-Ex, qu'il a beaucoup aimé et qui a continué de l'aimer probablement jusqu'à sa mort, Louise soudain annonce qu'elle va se marier. Et elle va se marier avec cet Américain prospère, magnifique, beaucoup plus âgée qu'elle, qui avait beaucoup soupiré pour sa mère. Et comme m'a dit sa dernière fille survivante, Alexandra, comment a-t-elle dit ça ? Elle m'a dit simplement, elle l'a soufflé à sa mère, et croyez-moi, elle en était extrêmement heureuse.
Donc un mariage qui l'amène à l'autre bout du monde. Et puis
étonnant.
Alors, cela, jusque-là, jusqu'au début des années 30, elle n'a encore rien écrit, jusqu'à cette rencontre qui l'a révélée elle-même, et avec un écrivain déjà célèbre au début des années 30.
Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à Monsieur André Malraux pour son roman La condition humaine.
J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine.
Voyez-vous, André Malraux, c'est un homme, il m'en a toujours beaucoup imposé. C'est à lui que je dois tout parce que c'est lui qui m'a fait confiance. C'est le premier homme dans ma vie qui ait vu en moi quelque chose que moi-même je ne soupçonnais pas. Quand je l'ai connu, ma passion, c'était de faire de l'aquarelle. Un beau jour, André Malraux m'a dit, « Eh bien, au lieu de peindre, vous devriez écrire. » L'idée d'écrire ne m'était jamais venue. Et c'est ainsi que, dans le premier livre que j'ai fait, j'ai commencé à cause de lui, à cause d'un exemple qu'il m'avait donné, c'est en regardant une plume voler, etc. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire ce livre, et puis je lui ai envoyé, et il m'a répondu en me disant, « C'est très très bien, continuez. »
Et donc Louise de Villemorin continuera grâce à Malraux. C'est au fond à lui qu'elle doit sa vocation d'écrivain.
Mais bien entendu, elle le dit très souvent. C'est lui, je lui dois tout. C'est lui qui m'a fait partir dans la vie. Elle connaît une sorte de crise en 32-33 au moment où elle le rencontre. Elle a eu trois filles, coup sur coup, il faut le dire, de son mari américain. Et en même temps, ce qui l'a fatiguée, et en même temps, elle entre en écriture et sa vie change. Elle entre en enfer. on peut dire, parce qu'elle a toujours eu un complexe d'autodidacte, comme elle n'avait pas suivi d'études régulières, elle était éduquée à la maison, qu'elle n'avait pas une bonne orthographe. Louise est très intéressante, parce que là encore, il y a chez elle une espèce d'honnêteté, de modestie profonde, ne s'aimait pas beaucoup. Elle n'avait pas toujours... Elle faisait de son mieux quand elle écrivait, mais elle n'avait pas toujours conscience de ce que ça valait. Et elle s'appuyait, pour cela, sur son plus jeune frère, elle avait 4 frères plus jeunes qu'elle, sur son plus jeune frère, André de Villemorin, qui était un esprit sérieux, qui, comme tous ses frères, était très lettré, et qui la cadrait, l'entourait, était un écran entre elle et son éditeur.
Les 4 feuilles de son trèfle, qui étaient...
Ah, les 4 feuilles de son trèfle. Vous connaissez l'histoire des 4 feuilles du trèfle. C'est un petit peu plus tard.
C'est devenu son symbole, son emblème.
Voilà, son emblème, son label, même son signe distinctif. Elle a même déposé, par volonté testamentaire, le label, en quelque sorte, de son trèfle. C'était les 4 frères, ces 4 frères qui, au moment de la guerre, dont elle était séparée, sans nouvelles, s'imposent à son affectivité plus encore, et dont elle apprend par un jeune lieutenant allemand occupant Paris, qui les connaissait la famille d'avant-guerre, qui vient, qui est de la mégisserie, qui la renseigne. Il lui envoie un trèfle à 4 feuilles dans une très jolie lettre, en lui apprenant que ses 4 frères sont tous vivants, qu'ils ne sont pas prisonniers. Et elle se rend compte que sa vie est sous le signe du 4. Elle est née un 4 avril du 4e mois de l'année, elle a 4 frères, et là, elle s'invente ce sigle à partir de son trèfle, dont la queue se termine, et elle le dessine tout le temps, par son L, le joli L de Louise. Jusqu'à la fin de sa vie, elle gardera ce sigle, elle brodera ses draps, sa vaisselle, tout en sera marqué.
Alors Malraux l'avait révélé elle-même, avec
l'a fait
son
écrire,
premier roman, Sainte une fois. Il y a aussi une aventure entre Malraux et elle, mais qui va se terminer assez vite.
Une liaison très brève et très ardente, comme doivent être toutes les liaisons.
Évidemment, Malraux n'est pas très content parce que il n'est pas le seul homme dans sa vie. Elle séduit aussi son éditeur, Gaston Gallimard, avec cette très jolie formule. Je méditerai, vous méditerez, M'. Hein.
Je méditerai, tu méditeras. Je méditerai, le verbe méditer, tu méditeras, éditeur. Elle aimait beaucoup monsieur Gaston Gallimard, comme elle disait toujours, avec un peu d'emphase, qui était son éditeur et qui l'a beaucoup soutenu.
Et puis une autre rencontre importante, celle d'un aristocrate hongrois, le comte Palfi, qu'elle rencontre en 1937, épouse en 1938 et qu'elle suit en Europe centrale où elle va rester pendant presque toute la durée de la guerre.
D'un homme, j'attendais quoi ? Une vie. Une vie pour qui ? Pour moi. Et voilà. J'attendais une vie. Une vie pour moi, c'est une maison, des promenades, dire « vous me ferez des œufs brouillés ». Je crois que je suis d'une platitude, enfin d'une banalité tout à fait extraordinaire. J'attendais une vie, quoi. Puis aller au magasin, aller pêcher à la ligne, s'il y a une rivière. C'est une vie pour moi. Mais rentrer chez soi, ça c'est pour moi, c'est la vie. Voilà, par exemple, mon mari, un homme exquis. Malheureusement, il n'est plus mon mari, ça. C'est pas gay. Eh bien, lui, il était hongrois. Et je l'ai épousé dans les années 37. Bref, je suis partie m'installer en Slovaquie. Et au pied des Carpates, dans une grande plaine. Eh bien, pendant 8 ans, je suis restée là. J'y étais parfaitement heureuse. Avec un homme qui ne m'a jamais été fidèle. Eh bien, je serais restée toute ma vie, loin, au pied des Carpates. Pourquoi ? Pour cette vie, plus que pour cet homme.
Bonsoir, Louise.
André ?
Oui ?
Je vais partir.
Je vous suis très reconnaissant de vouloir partir. C'est une idée comme seule peut en avoir une femme de votre qualité. Mais ce n'est pas une bonne idée. Notre bonheur conjugal est à notre image. Ce n'est que superficiellement qu'il est superficiel. Nous avons joué avec le feu. Moi, surtout. Mais votre désir de partir prouve que ma confiance en vous était justifiée.
Et c'était un extrait du roman le plus célèbre de Louise de Villemorin, Madame II, hein, qui ressemble un peu au fond au rapport qu'elle avait avec ce comte Palfi, auprès duquel elle a passé en Hongrie les années, on a l'impression, en tout cas vous l'écrivez, Françoise Hardouin est plus heureuse de sa vie.
C'est elle qui le dit jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de Palfi en 68, les seules années heureuses de ma vie, plus heureuses de ma vie. Il y a de quoi. Moi, je suis allée à Pudmerich sur les traces
de Louise.
C'est tout à fait admirable. C'est tout à fait tout à fait splendide et on comprend qu'elle se soit sentie une très bonne et très heureuse châtelaine auprès d'un homme qui était solaire, qui était magnifique.
Qui la trompait pas mal quand même.
Non mais ça n'a rien à voir, si je puis dire. Parce que Louise, de ce côté-là, savait qu'elle ne pouvait pas être pleinement satisfaisante pour qui que ce soit. Non. Oui, mais ça n'allait pas jusque... Ça n'était pas satisfaisant. Louise n'aimait pas l'alcôve. Elle aimait la conquête, elle aimait séduire, mais de la séduction à l'alcôve, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, elle n'aimait pas le franchir. Elle le franchissait parce qu'il le fallait. Hélas, disait-elle à sa famille, elle le commentait, mais ça la barbait, son expression, et d'elle. Malheureusement, pour elle, parce qu'elle n'était pas très satisfaisante auprès d'un homme, par exemple, comme Palfi, qui était beau, magnifique, un grand seigneur à l'européenne, encore libre, vous voyez. Et elle a toujours dit que le héros de Madame de, aussi bien le mari que l'ambassadeur, était un seul et même homme, et c'était précisément cette figure du grand seigneur à l'ancienne qui était soit Polly Palfi, soit son cousin, le comte Kari Vilcek, que Louise aimait beaucoup. Ce que nous avons entendu n'est pas du roman de Louise, c'est tiré du roman
film,
de Louise,
voilà,
qui est un chef-d'œuvre, un petit chef-d'œuvre en prose, et c'est tiré du film de Max Ophüls, qui est aussi le chef-d'œuvre de Max Ophüls, mais qu'elle n'a pas beaucoup aimé. Elle se sentait trahie, et pourquoi? Parce qu'elle disait que sans fixer temporellement son roman, parce qu'elle laisse le lecteur libre par élégance, là encore, tout de même, elle imaginait l'Europe centrale d'avant la dernière guerre. Or, Ophüls a transposé à la fin des années, à la fin du 19e siècle. Et elle dit comment le mari, qui est officier, pas même de cavalerie, aurait-il eu les moyens de racheter 4 fois la célèbre parure de diamants, les pendentifs en diamants de Madame de... Voilà.
En tout cas, elle quitte son mari, Palfi, il y aura un autre homme aussi, Thomas
Esterhazy. La guerre les sépare.
La guerre les sépare et la guerre après laquelle elle retrouve sa famille en France et surtout la maison familiale de Verrières-le-Buisson dont elle allait faire le rendez-vous de tout ce que Paris comptait d'écrivains et parmi eux, un habitué de Verrières-le-Buisson, Jean Cocteau.
Pour moi, Louise de Villemorin, c'est d'abord une maison. Verrières-le-Buisson était le pavillon de chasse de Louise de la Vallière. Et maintenant, le gibier qu'on y tue, c'est la sottise, à qui je déconseille de s'y aventurer. Car non seulement on la chasse, mais on la mange. Et on boit à la santé du rire, des larmes et de la gentillesse.
Louise de Villemorin, que représente pour vous ce château, cette maison?
D'abord, pour moi, ce n'est pas du tout un château. Nous avons toujours considéré que c'était la maison. Mais je crois que ce qui m'a attachée à cette maison, c'est... la bonne entente qui a toujours existé sous ce toit.
Il y a les neveux, il y a les nièces.
Georges Van Paris.
Il y a tous les copains, il y a les amis. Et tout ça chante avec moi.
Ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau. Elle avait sa robe blanche, lui son knickerbocker à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une langue qui était pas dans sa manche, si bien qu'il invita la gentille dactylo à se cacher du soleil sous les branches. Ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau.
Et à ce moment-là, Louise se lève et fait « Je vais vous dire un poème ». Alors là, ça devient merveilleux.
Si les bras de l'amour ont des ailes, j'ai de quoi m'envoler au temps frais demain. Allez hop, j'ai soufflé ma chandelle, la main part à mes jeux d'à peu près, les jeux sont faits demain.
C'était Louise de Villemorin lisant un de ses poèmes à Verrières-le-Buisson dans les années 50 et 60. L'atmosphère de Verrières-le-Buisson, Françoise Wagner, quand on vous lit, c'était au fond une espèce de salon littéraire, mais de deux siècles avant.
Pas seulement littéraire, tous les talents, qu'ils fussent prometteurs ou avérés, pouvaient se retrouver à Verrières sous l'égide de Louise. Elle avait cet extraordinaire charisme, cette ouverture, cette magie qui venait de son esprit, parce que bien qu'inconsolable, elle était toujours très, très gaie, très avenante et très ouverte aux autres. Et donc Verrières devient, dans les années 50, un lieu magique.
Pour lequel elle se ruine. D'ailleurs, c'était une femme très dépensière. Oui. L'argent me ruine.
L'argent me ruine, l'argent me ruine. ruine, je suis ennuyée, je suis très ennuyée, l'argent me ruine. Mais oui, ses frères la soutenaient beaucoup. Au fond, elle, oui, elle était dépensière comme l'impératrice Joséphine, mais elle n'avait pas Napoléon à côté d'elle pour renflouer ses dettes. Elle dit toujours, nous les Villemorins sommes très cadotiers. Ils adorent se faire des cadeaux. Dès le mois de janvier, ils commençaient à préparer leur cadeau du Noël suivant. Ils adoraient. Il faut comprendre Louise à travers son nom, son appartenance, son lieu, Verrières et sa fratrie. Sans sa famille, qui la soutient d'un bout à l'autre de sa vie, Louise ne serait pas Louise, évidemment. Sa devise, vous le savez, était « au secours ». Mmh. Elle avait besoin des autres à cause de sa fragilité physique, à cause de sa sensibilité d'hyper, enfin, de créatrice et de poète et d'écrivain. Donc, elle est entourée. Verrières, c'est un monde. Cocteau le dit très très bien. Il y a vécu un an. Orson Welles y a vécu. Il a écrit Monsieur Arcadine à Verrières. Il fuyait ses créanciers. Et Louise, cela dit, n'était jamais... Enfin, elle dit toujours qu'elle est pauvre. Voilà, parce qu'elle est très collectionneuse. Elle le disait tout à l'heure, elle ne résiste pas au plaisir de faire plaisir et de se faire plaisir aussi. Et ça entraîne, c'est un engrenage. Elle disait toujours « acheter n'est pas payer » ou « argent en poche est argent qui s'ennuie ».
Collectionneuse d'hommes aussi, donc, en ce moment, vous avez
oui,
cité
mais enfin, pas
Roger
au sens,
Nimier.
Oui, mais pas au sens vulgaire du mot. Ouais. Elle aimait séduire, elle séduisait beaucoup et elle a séduit toute sa vie. Roger Nimier,
vous citez
Orson
une rencontre
Welles.
Avec Pierre Segers, par exemple. Alors, oui. Elle a ce mot extraordinaire, je crois, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes dans votre livre que ça, c'était quelque chose d'inédit qu'on retrouve, c'est sa rencontre avec Pierre Segers. Il faut croire que j'étais à mon avantage, car en sortant de table et sans me consulter, il me conduisit dans un hôtel de passe. Et elle avait 60 ans.
Oui, voilà. Oui. Ça la laisse un peu éberluée. Et ça la flatte, ça lui plaît beaucoup. Mais comment dirais-je, ce qui est intéressant chez Louise, c'est toujours, on en revient à ça, la profondeur, la grande dimension. Eh bien, ses conquêtes, cette pléiade d'adorateurs qu'elle séduit et qu'elle draine dans son sillage, quand ils en valent la peine, elle en fait quelque chose. Elle transmue cet attrait et cette conquête en quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui sont des amitiés immuables, toujours avalisées par ses frères.
C'est ce qu'elle fait d'ailleurs à sa famille. À la télévision, où elle a un franc succès lorsqu'elle y apparaît le 18 novembre 1966, invitée à l'émission Carte Blanche qui était confiée ce jour-là à Guy Béard.
Moi, je suis très intimidée. C'est vrai, c'est très intimidant. C'est comme aller dans un autre temps. Ça vous dépayse encore plus qu'un autre pays. Et moi, je vis tout à fait confinée dans ma banlieue. Et jamais je n'ai l'occasion de voir tellement de personnes tellement plus jeunes que moi. Vous m'intimidez terriblement. Vous savez, je suis comme j'ai l'air. C'est-à-dire que je n'ai pas une grande originalité d'aspect. Pour les gens, je ressemble un peu... vraiment, disons-le, énormément, même d'une façon stupéfiante à ma grand-mère. Eh bien, écoutez, je vous jure que c'est vrai. J'entends ces intonations dans ma voix et je me dis, ça y est, m'y voilà la preuve. Hein. Donc, prenez, je suis vraiment intérieurement comme je suis extérieurement. Tout à fait simple. Moi, je ne vais pas dire que je suis né en 1766, sûrement, non. Bien qu'on pourrait le croire, mais ça non. Mais quand même, moi, je suis né au début de ce siècle et je vous assure que c'était tout autre chose.
Pourquoi le temps des souvenirs doit-il me causer tant de peine? Et pourquoi le temps du plaisir m'apporte-t-il si lourdes chaînes que je ne puis les soutenir, que je ne puis les soutenir, que je ne puis les soutenir? Plus jamais de chambre pour nous, plus jamais, ni de baisers à perdre haleine, et plus jamais de rendez-vous d'une heure à peine ou reposer à tes genoux.
Plus jamais, chanté par Guy Béard sur un très beau texte de Louise de Villemorin, comme tous ses poèmes d'ailleurs qui sont d'une facture classique et en même temps plein de nostalgie. J'ai perdu le cœur et la tête et le bateau de mes conquêtes ne porte plus que mon tombeau. C'est plein de... La poésie peut-être c'est ce qu'il y a de plus beau chez Louise de Villemorin.
De plus profond, de plus essentiel.
Et là où on voit une femme en détresse, vous le dites, au secours, c'était sa devise, et un secours qu'elle ne trouvera pas vraiment auprès de son grand amour des années 30, André Malraux, qui réapparaît en 1967. et qu'elle retrouve,
qu'elle reconquiert
à travers 30 des ans lettres, plus tard.
Mais oui, 35 ans plus tard au moins, à travers des lettres admirables qui sont inédites et que Florence Malraux, la fille d'André Malraux, m'a donné, m'a confié, et qui sont extraordinaires. 300 lettres de Louise, où avec ses armes d'écrivain dans sa maturité, dans sa plénitude, elle reconquiert un homme avec lequel elle avait vécu quelque chose de bref, d'ardent, qui avait laissé une cicatrice des deux côtés, car ils n'étaient pas allés jusqu'au bout de leur histoire. Et Malraux, souvenez-vous,
ministre de la culture,
voilà, ministre des affaires culturelles du général de Gaulle. À ma droite, j'ai et j'aurai toujours André Malraux, déclarait de Gaulle. C'était littéralement le deuxième personnage de l'État.
Oui, qui faisait de l'ombre du coup, parce qu'elle disait, je ne suis plus Louise de Villemarin, je suis Marilyn Malraux.
Ça, c'est un joli mot à son dernier page, le charmant Jean Chalon. Un jour qu'elle était un peu fatiguée, c'est plus compliqué que ça et c'est plus puissant et plus profond que ça. Elle a beaucoup aimé Malraux, mais elle était un navire en détresse, comme elle disait, à la fin de sa vie, elle était un peu fatiguée, et Malraux aussi. Ils étaient éblouissants, souvenons-nous, de leur aura médiatique de l'époque. Quel couple extraordinaire au crépuscule, l'un comme l'autre. Et Malraux est venu vivre 8 mois, les 8 derniers mois de Louise, à Verrières même, après le départ du pouvoir du général de Gaulle. Il a quitté le pavillon de la Lanterne où il vivait, et ces 8 mois ont été un peu difficiles, éblouissants, difficiles, parce que Louise n'était plus souveraine, elle n'était plus totalement sur son propre territoire. Malraux aussi était éminent, voilà.
Et elle meurt en décembre 1969, le lendemain de Noël. Un peu oubliée aujourd'hui, au fond, oui. On dit, au fond, elle est un peu, c'est un style trop classique, on disait c'est Madame de Sévigné, égarée au XXe siècle, et puis également jugée trop mondaine, un peu superficielle.
Elle a une légende noire, hélas, et il faut, enfin moi je me suis appliquée à aller la contre, et à retrouver la voix profonde de Louise, et à lever certains de ses masques. Et ce que je peux dire, c'est que le fond du fond, c'est évidemment sa création. C'est, comme dit Edmond Charleroux, m'a dit tout de suite, avec les mots, elle était sérieuse. Et au-delà de cette légende de salonnière, entre guillemets, il y a un grand poète, il y a un écrivain, une épistolière admirable et une femme vraiment de grande dimension dans nos lettres.
Et voilà. Que l'on retrouve dans votre biographie, Françoise Wagener, qui a été saluée vraiment presque unanimement par tous les critiques littéraires.
Oh, c'est ça, un succès extraordinaire.
Je suis né inconsolable, donc, de Louise de Villemorin, de Françoise Wagener, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Vous avez pu entendre un extrait du film de Max Ophüls, Madame 2, édité en DVD aux éditions FIS, et puis une archive pâtée de 1933, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Christian Thibaudeau, Michel Thomas, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et Élise Médéton-Nyon. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée, Marie-Antoinette à Versailles.